Les acteurs, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de rire. Ils rient. Vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Moi, je trouve ça grotesque.
Je suis monté à la capitale avec ma valise et mes films Super 8 à l'intérieur. Et j'ai montré mes films Super 8 ici et là, dans des maisons de production, dans des journaux.
It's typical of French cinema, you know? Nombrilistic, you know? Nombril, nombril.
De 1962 à 1972, Éric Rohmer réalise six contes moraux. Dans les années 80, ce seront les six comédies et proverbes, et dans les années 90, il y aura les quatre contes des quatre saisons, qu'il a préféré tourner dans le désordre, printemps, hiver, été, automne, avec une pause après les deux premiers films, le temps de deux petits films libres, petits par leur budget, L'Arbre, Mer et la médiathèque, et Les Rendez-vous de Paris. Les contes des quatre saisons, qu'est-ce que c'est? Comme l'indique le titre, ce sont des contes, c'est-à-dire des œuvres morales, avec un début, une fin, et entre les deux un apprentissage. Apprentissage du personnage, bien sûr, des personnages, mais également du spectateur. Car Rohmer est un cinéaste moral. Il filme la parole, comme pour en déceler les mensonges. L'image et les mots ne se recoupent jamais tout à fait. Les quatre saisons sont soumises au hasard, au destin du temps qu'il fait, de l'époque de l'année, qui dirige la dramaturgie et la couleur de chacun des films, grâce au paysage. Le temps, ce n'est pas seulement le temps qu'il fait, c'est aussi le temps qui passe, donc le temps qui presse et pousse à faire des choix, soit l'exact opposé du hasard, la nécessité. Le coffret DVD des films des quatre saisons vient d'être édité chez Opening. C'était pour nous l'occasion de revenir sur cette œuvre. Quatre œuvres et peut-être une seule œuvre plus globale. Nous allons essayer de voir ça. Avec, dans un premier temps, une analyse de chacun des films, et dans un second temps, peut-être, qui peut les réunir, les différencier. Bienvenue à ce hors-champ spécial Éric Rohmer avec les plus romériennes des chroniqueuses, Charlotte et Joséphine. Bonsoir.
Bonsoir, Martin.
Il y a longtemps que vous vous connaissez?
Non, depuis vendredi soir. On s'est rencontrés à une soirée où j'étais un peu par hasard. Natacha a été très gentille, je savais pas où dormir.
Mais vous êtes bien bonne de prêter votre appartement. Alors que vous-même, vous étiez en voyage?
Non, pas précisément. En fait, j'habite plutôt chez un ami, mais...
Moi, j'habite surtout chez une amie. Pour l'instant, je n'ai aucune raison de ne pas rester chez elle.
Oh, moi non plus. Si ce n'est qu'en ce moment, il est en voyage. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer. C'est la peur maniaquerie de ma part.
Maniaquerie? Comment ça?
Est-ce que je suis maladroite?
Moi aussi.
Conte de printemps, alors nous sommes au printemps, à Paris. Jeanne, qui est professeure de philosophie, attend une mutation pour partir en province et vivre une vie, se marier, vivre une vie tranquille avec son petit copain du moment. Elle rentre chez elle et là, horreur, des vêtements jetés partout dans l'appartement de Mathieu, son copain qui est parti en voyage. Du coup, furax, elle rentre chez elle, mais sa cousine squatte son appartement. Elle se retrouve donc en perdition dans Paris et elle rencontrera une jeune amie qui va lui proposer l'hospitalité.
Natacha, une jeune fille un petit peu plus jeune qu'elle, elle a une idée fixe en tête, c'est de pousser Jeanne dans les bras de son père.
On ne sait pas si elle le fait consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, elle s'amourache de Jeanne. Et tout le film va être une série de déplacements entre des appartements, entre un appartement assez chic où vit Natacha avec son père qui n'y dort presque jamais, Igor, et la maison de campagne du père qui est occupée alternativement par Jeanne et Natacha, par Igor et par sa petite amie qui a l'âge de sa fille Eve. Bref, amour, gloire et beauté.
Échange en perspective.
Voilà, échange ou peut-être prise de position de gens qui sont jamais vraiment à leur place. On se bat pour dire moi je suis arrivé le premier dans la maison de campagne donc je partirai pas. Et il y a cette espèce de ronde comme ça permanente dans les espaces.
C'est un film qui se qualifie un petit peu par son va-et-vient physique qui correspond au va-et-vient moral des personnages qui disent oui mais non et finalement à la fin on arrive à une sorte de demi-pas et même pas un premier pas.
Vous avez dit quoi ?
Oui, on a quand même un baiser. Il faut le noter. On a un baiser.
Un peu mécanique, mais...
Oh, comme tu y vas, tu parles de va-et-vient. C'est déjà beaucoup trop dire. Mais effectivement, le baiser est aussitôt donné que repris.
Oui.
Je peux vous prendre la main?
Oui.
Je peux vous embrasser?
Oui.
Vous voulez dire que vous avez agi par automatisme?
Pas exactement. J'ai agi par logique. La logique du nombre. Celle du nombre 3.
Jamais 203.
Oui, c'est un jeu. Il y a aussi toute cette tradition du nombre 3. Le triangle, le syllogisme, la trinité, la triade hegelienne, enfin, je ne sais pas. Toutes ces choses qui définissent un monde clos, qui instaurent le définitif et qui donnent peut-être la clé du mystère. Mais je ne me sentais pas entraînée par une force extérieure. C'était par libre choix. J'ai vraiment agi par honnêteté envers la logique. J'aurais pu dire non, mais j'avais l'impression que c'était tricher. C'était pas de jeu, comme je disais quand j'étais petite.
Vous savez, c'était un peu la raison pour moi aussi.
Un peu?
Oui, ce n'était pas la seule.
En fait, reste une personne en fonction de qui, ou plus exactement contre qui j'ai déterminé mon choix. Vous savez qui c'est?
Ce n'est ni vous ni moi, ni votre fiancée, avez-vous dit. Ève?
Mais non, c'est Natacha. On venait de parler d'elle. Et j'ai eu une petite dent contre elle aujourd'hui. J'espère qu'elle me le pardonnera.
Mais ce n'était pas contre elle. Elle voulait plutôt vous jeter dans mes bras.
Elle vous l'a dit?
Non, mais je la connais. Ne serait-ce que par hostilité contre Ève.
Le tout sur fond de piano romantique, puisque Natacha est une très, très renoirienne apprentie pianiste. Et d'ailleurs, c'est à mon avis la référence au peintre Renoir, hein, au peintre Auguste Renoir, est évidente dans la coiffure de Natacha qu'on voit souvent au piano.
Qui est Florence, jouée par Florence Darel.
Voilà. Par contre, on a un personnage principal féminin, donc Jeanne, qui est assez peu féminine, on va dire. Je crois que Joséphine avait une remarque sur les vêtements.
Non, enfin, c'est vrai que effectivement le personnage de Jeanne, contrairement à celui de Natacha, est pas extrêmement féminin, et pourtant c'est elle qui va être l'enjeu de séduction, puisque Natacha veut caser Jeanne avec son père, que elle ne sait plus très bien où elle en est avec son petit ami, et pourtant c'est vrai que bizarrement cette héroïne romérienne n'est pas très séduisante. Elle appartient à la catégorie brute de décoffrage, comme l'est aussi Béatrice Roman dans Contes d'automne, c'est-à-dire des femmes qui séduisent parce que elles ont un côté un peu rude, abrupt, qui est aussi effectivement chez Jeanne beaucoup plus d'ailleurs que chez Béatrice Roman dans Contes d'automne, marqué par les vêtements. Jeanne a les cheveux très très courts, vraiment pas garçonne, mais parce que justement, la garçonne reste féminine. Elle a une coupe. Vraiment, c'est taillé à la serpe. C'est pas très, très joli. Elle a des chemisiers à motifs, enfin, à fleurs vraiment ignobles qui blousent sur un pantalon remonté quasiment sous les aisselles. Enfin, honnêtement, elle est pas très, très glamour.
C'est aussi le sujet du film. C'est une autre qui essaye de la rendre désirable aux yeux du père. Donc
voilà,
ça...
c'est comment quand on veut faire des autres un objet d'amour, bah, ils peuvent résister, y compris par leur corps et par leur habillement. Et je trouve que ces héroïnes-là, tu fais bien de parler de Contes d'automne parce que c'est aussi l'histoire d'une femme à qui on essaye d'imposer un homme.
Même deux d'ailleurs.
Même plusieurs, au petit bonheur la chance avec des petites annonces. Et ces femmes-là ont quelque chose de minéral, enfin d'assez dur, qui les oppose, je trouve, assez heureusement aux jeunes filles qui sont, voilà, le cliché de la jeune fille en fleurs qu'on trouve aussi chez Romer. On a souvent reproché à Romer de préférer les midinettes. En fait, quand on regarde son cinéma, il y a au moins autant de femmes mûres et pas du tout séductrices au sens floral, on va dire.
Et pour parler, comme tu l'as fait, de Renoir, il n'y a pas seulement Renoir dans le physique de l'actrice, mais il y a aussi dans cette campagne, ce verre et la façon dont il filme. On pense un peu à des parties de campagne, ce genre de choses. Donc c'est un film qui a une vraie picturalité impressionniste, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les autres qui chercheront peut-être dans d'autres formes de peinture. Donc c'est vraiment un film à une douceur visuelle, avec une lumière très particulière.
Oui, où on arrive du point de vue narratif, comme on le disait, à une espèce d'annulement des choses, puisque ça a bougé, mais ça n'a pas vraiment bougé. Un collier a disparu, mais en fait, il n'avait pas vraiment disparu, etc. Et on a comme ça l'impression d'un, d'un tour sur place. Et peut-être que dans l'image aussi, il y a l'équivalent de ça. C'est-à-dire comment capter la lumière sans éclairer, comment écouter, comment montrer des personnages qui écoutent de la musique, par exemple. Il y a une espèce de côté très, très atone quand Igor, le père, et Jeanne, qu'il est en train d'essayer de séduire, se mettent sur le canapé à la maison de campagne et puis écoutent une cassette de Natacha jouant du Schumann, je crois. Et là, il y a un côté, la tristesse des maisons de campagne qui sentent le moisi, quoi. C'est à la fois beau et à la fois il n'y a pas de grandeur. Et on en parlera peut-être, mais dans plusieurs des contes des quatre saisons, il y a quelque chose comme ça de très terre à terre. On reste très ancré dans un lieu réel. C'est pas un décor, c'est un décor qui a été repéré, qui a été trouvé, mais qui reste très très à la limite de l'étriqué.
De toute façon, à cette époque, sud ou nord, je m'en foutais, j'étais prête à suivre partout. Jamais j'aurais pensé que je pouvais me tromper sur mon adresse. Ça, faut le faire. Tu vois ma connerie?
Tu ne savais même pas où tu habitais?
Mais si, mais j'ai pris un mot pour un autre. Tu sais bien, ça m'arrive souvent. C'était, comment ça s'appelle déjà?
Un lapsus.
Ouais, voilà, c'est ça, un lapsus. Je voulais dire le Valois, et j'ai dit Courbevoie. Pourquoi? C'est comme ça.
Ah, tu crois?
Ouais. Je m'en suis aperçue que 6 mois après. Quand j'ai rempli les papiers pour la maternité, j'ai refait le même lapsus. C'est là que j'ai compris que je m'étais trompée quand je lui avais laissé mon adresse.
Avant de découvrir tout ça, tu as dû penser qu'il t'avait oublié?
Non. J'ai plutôt pensé qu'il était mort.
Contes divers, ça commence comme un roman photo où tout est l'histoire d'amour est expédiée, si on veut, dans les premières secondes du film, puisque c'est une idylle de vacances et que Félicie rencontre Charles, ils se plaisent, ils s'aiment dans un bungalow, je sais plus où, en Bretagne peut-être. Et une fois que tout cela est fait, ben on se retrouve dans la grisaille de l'hiver, de la banlieue parisienne, puis de Nevers. Enfin bon, tout ça est assez grisâtre. Et les gens sont engoncés dans des espèces d'anoraks informes. Et Félicie navigue entre deux hommes, Loïc et Maxence. Maxence, si ça vous dit quelque chose, ça vient quand même un petit peu de Jacques Demy. Et entre les deux, finalement, est-ce qu'elle a besoin de choisir? Peut-être pas, puisqu'elle a toujours le rêve de ce garçon qu'elle a rencontré en vacances et qu'elle a perdu de vue.
Le choix qui se fait, c'est en fait, est-ce qu'il faut que je reste seule pour attendre l'autre ou est-ce qu'il faut que j'aille avec l'un des deux? Donc elle passe de l'un à l'autre, mais ça n'a pas tellement d'importance, c'est la même chose. C'est le choix du réel contre le choix du rêve. Il faut préciser que Maxence est coiffeur et que c'est son patron et que Loïc, lui, est plus, c'est un des personnages philosophes, intellectuels. Donc c'est deux pôles de vie, mais dans lesquels elle ne se reconnaît pas tout à fait elle-même.
Bon, enfin, je ne vois pas pourquoi je le défendrais. J'ai toujours pensé que c'était le mauvais choix.
Écoute, maman, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Ce qu'il faut, c'est que la question du choix ne se pose pas.
Il faudra bien choisir un jour.
Oui,
enfin,
si. J'ai fait un choix.
Ce qu'on peut préciser, c'est que le prince charmant Charles est cuisinier. Donc on n'a pas une transcendance entre les deux hommes par un troisième. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un conte, on va dire un conte de Noël un peu, puisque ça se passe pendant Noël. C'est en même temps une réflexion sur Contes d'hiver de Shakespeare, qui est l'origine de la genèse de ce projet, puisque Eric Rohmer a lu ou vu, je crois qu'il l'a vu, Contes d'hiver de Shakespeare. Donc il y a là quelque chose de l'ordre de la ressuscitation, on peut dire ça.
Résurrection.
De la résurrection.
C'est traité dans le film d'ailleurs, puisqu'on voit une représentation de Contes d'hiver et que c'est là qu'elle a une sorte de révélation, mais sans le savoir. Une première révélation dans une église. La deuxième, en voyant Contes d'hiver, elle pleure parce qu'on ressuscite. Là, c'est une femme disparue et qui revient aux yeux de son mari et de sa fille.
Dites-moi que c'est bien son portrait. J'aime votre silence. Il montre mieux que tout votre émerveillement. Mais parlez. Vous d'abord, sire. N'est-elle pas ressemblante?
C'est elle.
Oui, mais ça, c'est l'aspect, je dirais, naïf, volontairement naïf, de Rohmer. C'est la première fois qu'il va au bout de ça. En laissant ces personnages, il leur offre un miracle. Enfin, il offre à Félicie un miracle, ce qui est rare. Comme on disait dans le premier conte, le conte de printemps, finalement, chacun rentre chez soi et les choses n'ont pas tellement bougé.
On retrouve le collier et c'est tout.
Voilà, on retrouve le collier, la belle affaire. Ici, on a, si on veut, un miracle, mais il faut se souvenir que dans Contes d'hiver de Romer, on voit la fin de cette pièce, de Shakespeare, on voit la fin de cette pièce où on a l'impression qu'une mère ressuscite pour sa fille, c'est-à-dire que sa fille est en présence de la statue, l'effigie de sa mère, et que l'effigie s'anime. Mais en réalité, c'était un mensonge dans la pièce, car la mère s'était elle-même retirée volontairement plusieurs années. Et donc ça fait quand même réfléchir un petit peu sur cette fameuse épiphanie de Contes d'hiver de Romer, où c'est quand même un cuisinier qui va revenir et qui va l'emmener faire la caissière dans un restaurant de Bretagne. Voilà, non mais ça peut être une vie formidable, hein. Mais je veux dire, c'est pas une transcendance par rapport aux deux autres hommes.
C'est une transcendance par rapport à elle et à son désir, à sa foi. Et c'est ça qui l'habite, puisque elle, quand elle voit la pièce, elle dit « Mais non, bien sûr qu'elle ressuscite, elle en est certaine. » Et de la même façon qu'elle est certaine, à un moment donné, que son amant perdu va réapparaître. Et il y a quelque chose de l'ordre de cette foi dans son propre destin, qu'on retrouve aussi dans le conte des quatre saisons suivants, qui est conte d'été.
Tu vois, je trouve vraiment dommage que 99 fois sur 100, quand un garçon parle à une fille, faut toujours qu'il ait une idée derrière la tête.
Quelle idée ?
Une idée, une arrière-pensée. Ne fais pas l'idiote, c'est très bien ce que je veux dire.
Je trouve pas que ce soit mal de penser.
Pff, ne sois pas cynique, ça ne te va pas.
Tiens, cynique, pourquoi ?
Oui, cynique, comme les autres. Alors qu'avec toi, en général, on peut parler.
Tu lui as parlé de Solène ?
Alena ?
Non, t'es folle.
Tu es pas mal dissimulateur, toi aussi.
Mais j'aimerais mieux être tout à fait franc avec elle, mais c'est pas possible.
Je ferais une montagne de rien. Et puis le premier jour, c'était tout à fait idyllique, j'allais pas apporter les nuages. Et le second, ça tournait à l'orage, j'allais pas le faire éclater. Puis j'aime pas mentir.
Qu'est-ce que tu racontes ? Raison de plus pour parler ?
Non, parce que si je parle pas, elle me questionne pas et j'ai pas à mentir. Alors que si je parle, comment tu veux que je lui dise la vérité, alors que moi-même, je la connais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu pleures ?
Non, je ris.
Pourquoi ?
Parce que ça me fait rire, ta situation. T'es comme un clochard qui se réveille milliardaire. Trois filles en même temps. Tu crois pas que c'est un peu beaucoup, non ?
Conte d'été, qu'est-ce que c'est, Joséphine ?
Conte d'été, qu'est-ce que c'est ? C'est Gaspard, joué par Melville Poupeau, qui part en vacances à Dinard. Il est étudiant en mathématiques et avant de prendre un petit boulot à Nantes, il se rend en vacances dans la maison de parents d'un de ses amis pour prendre quelques jours au soleil. Mais il y va pas si innocemment puisqu'en fait, il espère retrouver sur place Léna, une jeune femme qu'il connaît et qui est, comme il le dit lui-même, plus ou moins sa copine, et qui, elle, est en vacances chez des cousins à Saint-Lunaire. Donc, en fait, il vient attendre Léna, qui se fait attendre, justement, puisqu'elle a un retard, je crois, d'une dizaine de jours sur son arrivée prévue. Et pendant ce laps de temps, Gaspard rencontre deux autres jeunes femmes, Margot, qui devient une sorte d'acolyte, vraiment, parce que elle est ethnologue, et elle fait un petit job d'été chez sa tante dans une crêperie, elle est serveuse. Donc Margot le balade, l'emmène avec lui lors d'entretiens ethnologiques. Ils font de longues balades dans la Bretagne bretonnante.
En suivant d'ailleurs la ligne de la côte.
Le chemin des douaniers. Il rencontre également Solène, qui est, comment dire, un peu la bombe du coin, hein, je pense qu'on peut dire ça, la fille que tous les types ont envie de se taper, et qui jette son dévolu sur Gaspard. Donc, intrigue assez mince finalement, puisque c'est l'histoire d'un garçon qui a le choix entre trois filles et qui ne sait laquelle choisir. Et en fait, l'enjeu, c'est laquelle des trois va-t-il emmener à Ouessant. Donc, Un week-end à Ouessant. Alors, comme toujours chez Romère, ce genre de petits détails qui peuvent sembler un peu simplistes cachent un enjeu beaucoup plus grand, à savoir qui emmener à Ouessant, c'est aussi se poser la question pour Gaspard de savoir qui aimer. Et pose évidemment la question de l'idéal. L'idéal, et là encore, on en revient à Demi, puisque la question de l'idéal masculin chez Demi, c'est une question forte. Là, c'est la question de l'idéal... l'idéal féminin aussi, pardon, dans Les Demoiselles. Là aussi, c'est la question de l'idéal féminin. Laquelle choisir? Est-ce qu'on va choisir plutôt l'inaccessible, Léna, c'est-à-dire celle qui ne vous aime pas de toute façon, puisqu'elle elle dit à Gaspard, tu ne fais pas le poids. Est-ce qu'on va choisir la partenaire, c'est-à-dire celle qui vous fait pas que vous trouvez pas forcément désirable, mais avec laquelle il y a une vraie acquaintance intellectuelle, à savoir Margot, ou est-ce qu'au contraire, on va choisir, je dirais, la jouisseuse, quoi, celle qui est sensuelle comme Solène, qui est pleine de vie, dans la nourriture, dans le chant, dans le sexe. Voilà, c'est la question qui se pose à Gaspard. Et Gaspard, c'est vraiment le contraire du personnage de Jean-Pierre Léo dans La maman et la putain, qui dit « Je ne crois pas au hasard », puisque lui, Gaspard, s'en remet entièrement au hasard. C'est-à-dire qu'il espère que la situation va se résoudre d'elle-même en ne choisissant pas, en laissant les choses se faire. C'est-à-dire qu'il demande à la vie de décider pour sa vie.
En gros, c'est exactement quelque chose de shakespearien, puisque plusieurs fois dans Shakespeare, on dit c'est seul le temps démêle les chevaux des situations, etc. Et c'est vrai que chez Romer, le temps joue d'autant plus dans les contes des quatre saisons, et d'autant plus dans Contes d'été où on voit la marée comme ça qui monte et qui descend. Apparemment, ça c'était aussi un problème pour le tournage, parce que comment on fait des chants contre chants quand on les fait pas en même temps? Comment on monte quand la mer n'est pas au même niveau? Et quand tu disais que les détails sont importants, c'est sûr que le déroulement du temps il se déroule aussi là, et dans la lumière, bien sûr.
Et d'ailleurs, c'est un film qui est beaucoup en travelling sur la plage et qui suit beaucoup ses personnages.
Voilà, de longues plans séquences sur la plage lors de balades extrêmement longues. Il y a des scènes Léna-Gaspard, Gaspard-Margot qui durent peut-être 10 minutes de beaux travelling sur la plage. Enfin, moi, je trouve que c'est un film... Enfin, moi, c'est mon préféré, pour le coup, Contes d'été, parce que je trouve qu'il en émane une sensualité vraiment estivale. Enfin, des choses... du flirt, mais vraiment bien mené. Des choses très anodines. Un genou... devant les yeux de Gaspard, découvert, une épaule dénudée, jouer avec un brin d'herbe sur la joue d'un garçon, enfin des choses très anodines, mais qui sont extrêmement sensuelles. Et en même temps, je trouve que c'est le plus triste pour moi des quatre, hein, parce que même si, comme vous le dites, Conte de printemps se finit, il s'est pas passé grand-chose, au moins il n'y a pas ce sentiment de perte qu'on a à la fin de Conte d'été, puisqu'en fait, à force de vouloir laisser la vie décider pour soi, il s'avère que Gaspard quitte Dinard sans aucune des filles, et surtout sans partir à Ouessant, sans avoir besoin de choisir avec qui va partir à Ouessant. Et c'est triste, parce qu'en fait, on reste sur une image de regret, accentuée à ce moment-là par la reprise de la chanson d'Hugo Frey, Santiano, puisqu'on a Gaspard qui s'éloigne avec le bac, Margot qui est sur le quai, et on entend donc le refrain, enfin le couplet de Santiano, qui, je vous le fais pas enchanter, ce serait trop horrible, mais je pars pour de longs mois en laissant Margot ICO, Santiano. D'y penser, j'avais le cœur gros je en doublant les feux de Saint-Malo.
Laissant Margot ICO, Santiano. D'y penser, j'avais le cœur gros.
Et c'est terrible, parce que personnellement, pendant tout le film, j'espère que Gaspard va finir avec Margot, qui est quand même celle pour qui il est fait, qui est une fille super, et il s'en va comme ça, et on voit cet amour qui aurait pu naître se déliter comme ça au film, au fur et à mesure qu'on voit le bateau s'éloigner. C'est terrible avec cette chanson, c'est vraiment un film triste, je trouve, alors que c'est le film estival qui serait censé quand même... C'est pas le... Contrairement à Contes d'hiver, justement, qui se termine. Certes, on peut contester le fait que Charles soit... c'est un idéal, donc forcément, il est rêvé de loin. Mais malgré tout, ça se termine bien, puisque Félicie retrouve celui qu'elle aime. Là, c'est une histoire... Enfin, c'est une histoire de vacances, quoi. C'est une histoire avortée. C'est terrible.
Alors que si ils avaient vécu, il avait lui fait son choix en vacances, il aurait eu droit au roman photo comme Félicie et Charles au début. L'important, c'est de vivre son bonheur à un moment, et puis ensuite il peut germer sous la forme d'une attente. Là, on peut faire confiance au temps, mais si effectivement on se déresponsabilise complètement en disant de toute façon le hasard le fera pour nous, c'est là où effectivement s'il y a une dialectique entre le hasard et puis ce qu'on peut provoquer
Ouais, moi, je crois que la question que pose Comte d'été aussi, c'est de dire, est-ce que je continue à poursuivre mon rêve? Donc pour Gaspard, c'est Léna, cette femme inaccessible, odieuse quand même, il faut le dire. Ou est-ce que j'admets que je me suis trompée de rêve? Et donc, de femme. Et je crois que c'est vraiment la question qui sous-tend aussi tout le film et que Gaspard refuse de se poser finalement, puisque à la fin, il n'y a pas de choix. S'il y avait eu un choix, il serait reparti avec l'une des trois, enfin, s'il s'était posé la question. Et je crois que c'est vraiment la question donc, du rêve, de l'idéal, savoir est-ce que je cours après cet idéal ou est-ce que j'admets m'être trompée.
Voilà. C'est en ça que c'est vraiment un conte moral, comme Romère en a fait auparavant et comme tous les autres, mais celui-là a une morale très très forte, qui est finalement qui a une histoire d'amour refoulée pendant tout le film, puisqu'il met très longtemps avant de mettre Margot dans la compétition avec les autres en disant je suis moi-même avec toi parce que tu es mon ami. S'il y avait de l'amour, ça ne serait pas ça. Et il va découvrir à la fin, effectivement, quand il est trop tard, que peut-être que ça en était quand même.
Je vais te dire une chose qui va te faire plaisir. Il n'y a qu'avec toi que je suis moi. Avec Solène non plus, je ne me suis pas senti moi-même. J'étais comme dans un voyage, ou plutôt comme voyageant dans une histoire. Comme essayant de m'identifier à un personnage qui n'est pas moi.
Et avec Léna?
Je joue aussi un personnage que je me suis fabriqué pour elle.
Mais c'est là où dire que Romère, c'est les petites jeunes filles aux cheveux longs, etc. Alors qu'il y a vraiment une réflexion sur ce que c'est que la différence sexuelle, ce que c'est que la séduction, justement, comment des femmes apparemment qui sont pas dans une séduction ultra féminine et cliché de la jeune fille ou de la femme sont peut-être les femmes idéales que les hommes ont sous les yeux et qui voient pas ce qui est rageant, ce qui est vraiment déchirant et rageant.
Il y a assez peu de films finalement sur l'amitié amoureuse vue comme dans Comte d'été. Donc déjà pour ça, le film a une originalité, une tristesse, comme tu disais Joséphine, assez belle et assez forte.
Oui, parce qu'on assiste à ce basculement, on le comprend avant le héros, et malheureusement on se rend compte que lui ne fait rien, n'agit pas en ce sens, alors que nous on assiste au basculement, et c'est très beau justement, la sensualité à ces moments-là, lors de balades, effectivement on voit Amanda Langlais qui met à un moment, ils sont sur les rochers, on a un gros plan avec le genou d'Amanda Langlais et Gaspard, alors lui il regarde complètement ailleurs, et quand finalement Gaspard se jette sur elle, c'est de façon tellement, je dirais, vorace et maladroite. On sent bien qu'elle attend autre chose, la pauvre, et que finalement, il y a une question de fierté aussi. C'est toujours ça qui est terrible. Les personnages romériens sont beaucoup trop fiers pour avouer qu'ils aiment ou qu'ils peuvent être faibles, justement, face à l'être aimé. Ça, c'est terrible.
Mais j'aime bien quand tu parles de la grâce des corps un peu dénudés. Et dans le film, il m'a moins fait penser à des tableaux qu'à des sculptures. Notamment un moment avec Solène, la sensuelle, devant, sur une place avec une petite sculpture. Il y a comme ça une façon de montrer le corps et certains, surtout les articulations du corps, de façon taillée, quoi. C'est un film qui a vraiment une poétique du corps et de la peau.
Moi, je crois que c'est surtout Amanda Langlais qui est très représentative. D'ailleurs, on ne s'étonne pas, hein, elle était déjà l'héroïne de Pauline à la plage, beaucoup plus jeune. Là, on la retrouve. Et c'est vrai que Amanda Langlais a un corps assez étonnant. C'est-à-dire qu'elle a ce côté un peu prépubère, elle n'a quasiment pas de poitrine. Et en même temps, elle a des jambes magnifiques. Et bon, quand on sait que Romère a tourné un film qui s'appelle Le genou de Claire, on comprend l'importance de la jambe. Enfin, Amanda Langlais, c'est vraiment une femme tout en jambes. Elle a toujours des jupes extrêmement courtes et extrêmement belles, très bien dessinées. C'est assez saisissant, je trouve.
C'est le détail érotique pour le tout.
Complètement.
Sauf que Gaspard regarde trop haut vers l'idéal Léna.
Ben voilà.
Moi, je crois que ce qui te manque, ce ne sont pas des enfants.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
Sur ce point, tu
hors champ
bien,
spécial, conte des quatre saisons d'Éric Romère.
Tu veux dire un homme, hein? Tu ne crois pas?
Oui, je crois que tu as parfaitement raison.
Ah, alors c'est simple.
Simple. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. À mon âge, c'est plus difficile que de trouver un trésor sous les vignes.
Mais tu es super belle, je sais pas pourquoi tu dis ça.
Les hommes ne pensent pas comme toi. Ils préfèrent les petites jeunes. Et puis ils sont tous pris.
Mais non, pourquoi les hommes seraient-ils tous pris, pas les femmes? T'as jamais lu les annonces matrimoniales dans les journaux?
Et pourquoi je les lirais? Tu les lis, toi?
Ah oui, ça m'est arrivé. C'est parfois drôle.
Mais c'est tous des crétins, c'est tous des obsédés, là-dedans.
Il n'y a pas que des obsédés, des crétins. Il y a aussi des gens très bien qui, dans la société moderne,
on doit peut-être parler
seul,
du dernier des quatre films, le plus récent, Comte d'automne, 97. Qu'est-ce que c'est Contes d'automne? Est-ce que l'une de vous veut le résumer? C'est voilà. En gros Magali qui est viticultrice.
Voilà, et qui a son amie, sa meilleure amie Isabelle qui est libraire. Et il s'avère que Magali souffre d'être célibataire. C'est dur la vie d'agricultrice. Donc Isabelle, en bonne copine, décide fort maladroitement de passer pour le compte de Béatrice une annonce dans le journal local. Tandis que la petite amie du fils de Béatrice, n'importe quoi, pardon, elle s'appelle Magali.
Magali.
Oui, c'est Béatrice Roman, la
crise. Béatrice Roman.
Donc voilà, et que la copine du fils de Magali décide de la coller.
Rosine, voilà. Qui est d'ailleurs très amie avec la mère et beaucoup plus qu'avec le fils, dit-elle.
Voilà, décide de la mettre à la colle avec son prof, son ancien prof de philo, qui n'est autre que son ancien petit copain également. Alors, l'imbroglio est tel qu'il s'avère que Isabelle trouve quelqu'un pour Magali, mais décide de se rendre pour elle au rendez-vous et va se faire passer pour elle pendant un certain temps, tandis que la pauvre Rosine, essaye, oui, en plus c'est un prénom de chez Beaumarchais, là vraiment je suis impardonnable, essaye d'arranger des rendez-vous qui, mon Dieu, mais sont des catastrophes entre le prof de philo, très éthéré, très dans la pensée, et Magali qui est effectivement plutôt brute de décoffrage. Bref, tout ceci va se dénouer lors d'un mariage qui n'est autre que celui de la fille d'Isabelle. Je raconte la fin ou pas? Non.
Bah, on va éviter.
Non, c'est pas la peine. En tout cas, c'est un très beau film aussi, celui-là. Et c'est effectivement, enfin, je disais Beaumarchais, mais en fait, c'est vraiment Marivaux, là, pour le
avec
coup.
Avec une triangulation du désir, puisqu'évidemment, Rosine veut se débarrasser de son ex pour qui elle a toujours des sentiments en le filant dans les bras d'une femme qu'elle admire profondément. C'est presque de l'amour, un petit peu comme avec Natacha et Jeanne dans Le Conte de Printemps. Et d'autre part, Isabelle qui se fait passer, une certaine polyphonie, elle se fait passer pour Béatrice Roman Magali. Et donc, elle emploie son langage et elle essaie de séduire cet homme qui est l'un de l'autre, Gérald.
Je vous déçois?
Non, au contraire. Je n'imaginais pas qu'une femme de la campagne pouvait être aussi élégante.
Mais j'y ai pas toujours vécu, vous savez. Ce n'est qu'à la mort de mon père, il y a 5 ans, que j'ai décidé de reprendre son vignoble.
Ah, tiens. Vous savez, je suis fils de viticulteur. J'ai passé les 10 premières années de ma vie à gambader dans les vignes en Algérie. On a été rapatriés en 61.
Et comment faire une fois qu'on a séduit quelqu'un pour le passer à l'autre? C'est un peu compliqué de séduire par procuration.
Il y a d'ailleurs une scène très très ambiguë où elle est contente que Magali lui ait plu, mais en même temps elle lui donne un petit baiser parce qu'elle aurait bien aimé quand même pouvoir un petit peu profiter de elle qui est encore mariée et qui a perdu l'habitude de la séduction, elle aurait bien pour pouvoir aimer profiter encore un petit peu de ça.
Et puis qui marie sa fille en plus, donc c'est-à-dire que la mère laisse la place à sa fille, donc je pense qu'elle doit se sentir un peu menacée dans sa féminité, et c'est pas un hasard si elle joue à ce jeu un peu dangereux au moment où elle se retrouve reléguée au rang de grand-mère quasiment, puisque c'est la fille
c'est
qui devient femme.
Proche, oui.
Alors là, ce qu'on peut dire avec Contes d'automne et ce qu'on n'a pas dit, bon, Contes d'automne, évidemment, film du mûrissement, film de femmes plus mûres aussi, c'est qu'on a deux grandes actrices romériennes qui reviennent.
Qui sont Marie Rivière, voilà, qui a joué dans Le Rayon Vert notamment, et fait une petite apparition dans Le Conte d'hiver.
Et Béatrice Roman, qui était notamment dans Le Beau Mariage.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'elle disait dans Le Beau Mariage? C'était une jeune fille très piquante, comme ça, et qui disait « Je veux me marier, et non seulement je veux me marier, mais je vais me marier. » Et qui était absolument certaine que d'une façon ou d'une autre, elle trouverait mari. Alors que Marie Rivière, qui là joue le rôle d'une femme mariée qui veut un peu de marivaudage pour
épicer sa vie, oui.
À l'époque, était... Dans Le Rayon Vert, était quelqu'un de désespérément célibataire qui partait ratisser les plages.
Et de très idéaliste, plus proche quelque part de l'héroïne de Contes d'hiver, mais sans le passé de roman photo.
Et qui regardait d'ailleurs le fameux Rayon Vert en écrabouillant la main de son amant du moment, comme Félicie le fait avec son ex Loïc devant Contes d'hiver.
contes d'automne, il y a une picturalité aussi très très grande, notamment des gestes et des jeux de position, et un rapport très intéressant du personnage au paysage qui est derrière, et ce paysage qui change avec ses routes, ses autoroutes.
Son vin, on a dit qu'elle était agricultrice, mais elle fait du vin.
Donc l'opposition entre la nature et des choses plus, disons, citadines, il y a quand même au début une sorte de petite parabole sur... Marie Rivière qui est le rat des villes et l'autre qui est le rat des champs, et c'est un petit conte qui joue là-dessus aussi sur comment est-ce que le lieu autour de nous change et comment est-ce que nous aussi on vieillit. Et c'est un des films les plus pas les plus tragiques, parce que c'est pas tragique, mais qui a quand même un petit piment de tragédie dedans, puisque ce sont des femmes effectivement, comme tu le disais, plus mûres.
Et on n'a pas tellement parlé de ça, mais c'est vrai qu'il y a une particularité de l'image, peut-être moins dans Contes d'été, mais en tout cas dans les trois autres de ces contes, qui est presque à la limite du téléfilm. Dans Contes d'hiver, c'est tourné en 16 mm parce que les endroits étaient exigus, puisqu'on est dans des basses classes, contrairement à d'autres films de Romer, on est dans un salon de coiffure du boulevard de Belleville à Paris. Bon, et donc il s'est dit que tourner en 16, ça lui permettrait de manier plus facilement la caméra. Or, ensuite, il a eu des problèmes de copie. De couleurs et de rendu de couleurs sur les copies. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être généraliser aux quatre contes, on décolle pas d'une certaine matérialité presque laide.
Ouais, enfin, moi je trouve que c'est particulièrement présent dans Contes d'hiver, qui a un côté au niveau des images un peu d'Éric. C'est vraiment bon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez esthétiquement. C'est vrai que c'est pas très très joli. Et ça s'estompe. Contes de printemps est assez marqué. Et je trouve que ça s'estompe quand même sur la fin avec Contes d'été et Contes d'automne, qui sont dans des. C'est vrai que déjà les milieux sociaux. Alors bon, certes, Contes de printemps c'était quand même les bobos, quoi. Enfin, les ancêtres des bobos. Contes d'été et je pense que c'est quand même Contes d'automne qui est le plus soigné au niveau de l'image. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, ce que vous en pensez, mais
moi je trouve qu'il y a une certaine effectivement Contes d'automne est particulièrement soigné, mais il y a une certaine beauté de même de ce côté terre à terre et de ce côté on est dedans, quoi. On n'est pas dans l'idéalisation pour le coup, alors que
ah non, puisque Contes d'automne, si je me souviens bien, s'ouvre sur une voiture, une banale voiture qui n'est pas sur une grande route comme ça et lancée de loin comme dans plein de films qui ressemblent à des pubs pour voitures, mais qui arrive comme ça sur le gravier de la maison d'Isabelle. Enfin, c'est tellement terre à terre que ça ne peut pas être involontaire de la part de Romer.
Et puis même si c'est un beau paysage de vignoble, on a quand même toujours dans l'arrière-plan cette horrible centrale qui revient souvent dans la conversation et qui effectivement pèse à chaque fois sur le paysage. Donc on n'est pas non plus dans un paysage pastoral idyllique, effectivement. Les gares sont laides. À un moment, Gérald donc et Magali, enfin Gérald emmène Magali à la gare, on traverse des villes assez immondes alors qu'on est quand même dans une région viticole assez belle. On traverse quand même des zones industrielles, il y a cette centrale toujours. Enfin, il y a des choses quand même, effectivement, on est toujours rappelé à la réalité. C'est jamais une pastorale.
Veuve, un intervalle, deux grands enfants, alors virgule et un intervalle, gay, vive, sociable, virgule, mais isolé dans campagne. Cherche homme, aimant, cherche homme, épris de beauté physique et morale.
Une invitée nous rejoint, c'est la troisième romérienne de l'équipe ciné de Radio Campus Paris, Laurence, qui vient nous parler de La Cité chez Éric Romer.
Donc La Cité, on peut penser à La Cité grecque, c'est un rapport politique à ce qu'il filme, parce qu'en fait je voudrais pourfendre certaines idées reçues sur Romer, parce que bon, on va aussi parler de son rapport au roman qui est très connu, mais moi je voudrais dire que Romer, il fait pas un cinéma d'un tel au chiant, non. Romer, il fait un cinéma qui s'intéresse au réel, qui s'intéresse au présent. Et ça, on l'oublie assez souvent. Et il fait un cinéma qui s'inscrit très profondément dans des décors et dans des situations qu'on connaît tous, mais très, très profondément. Donc pour moi, Romer, c'est pas un cinéaste du verbe, pas uniquement en tout cas. C'est vraiment un cinéaste très concret, quoi. Donc je voulais vraiment vous parler de ça à travers quelques exemples, et en particulier à travers Le Conte d'Hiver, qui a pour le coup là vraiment une réputation de film hyper littéraire, parce qu'on cite Pascal, on cite Platon, et l'héroïne est une espèce d'ingénue voltairienne qui fait des expériences philosophiques.
En même temps, elle est coiffeuse, et comme pas mal des héroïnes de Romère, elle a un métier extrêmement concret qu'on ne voit pas vraiment, on ne voit que les à côté, mais elle n'est pas d'un niveau social très élevé, ni même intellectuel, et elle cite un peu Pascal par hasard dans le film.
Voilà, c'est en ce sens que je voulais dire que dans Conte d'Hiver, les personnages sont des personnages comme vous et moi. Alors il y a cette héroïne qui est le fil conducteur, qu'on va suivre, qu'on va aimer parce que c'est un personnage magnifique de croyance en la vie, mais pas juste croyance religieuse, c'est vraiment un personnage positif. Donc c'est un personnage comme ça qui est pétri de force, qui est vraiment dès le départ posé comme une fille mère, mais une fille mère qui a jamais renoncé à sa foi. Dans cet idéal.
Et en même temps, elle se prive pas de vivre une vie amoureuse extrêmement, disons, enjouée, puisqu'elle a deux amants dans le film, passe de l'un à l'autre en hésitant. Une idéaliste, une femme qui croit, mais quand même avec un sens du concret particulier.
Totalement, et c'est en ça que Romère est très fort. C'est-à-dire que c'est un personnage, elle est coiffeuse, donc on voit ses activités quotidiennes de travail. Et en fait, tous les aspects de la vie sont traités chez Romère, c'est-à-dire qu'on la voit énormément dans les transports en commun. Elle va travailler, elle va à Nevers, elle voyage. On la voit emmener sa fille à l'école, on la voit faire les courses, on la voit en repas de famille. Et on la voit avec ces hommes, ces deux hommes, qui sont eux-mêmes deux, on pourrait dire stéréotypes, mais c'est beaucoup plus fin que ça chez Romère. Ces deux personnages très différents, deux hommes qui sont deux pôles, qui l'attirent réciproquement évidemment, parce que elle, c'est le centre de leur vie à eux deux, mais elle a un autre centre qu'eux. Donc elle ne les aime pas au maximum de ce qu'elle peut aimer, puisqu'elle a aimé un jour un homme, et qu'eux deux, c'est vraiment comme des amis pour elle, des amis qu'elle aime, mais qu'elle n'aimera jamais assez. Donc ces deux hommes, c'est d'un côté un coiffeur, donc avec qui elle partage son activité, et de l'autre un professeur qui travaille dans une bibliothèque aussi, enfin c'est en gros un intellectuel. Donc les deux personnages ont deux, on va dire, stylisations assez différentes. Il y en a un, c'est vraiment l'intello, il lit ses bouquins, dès que quelque chose lui arrive, il va se référer à une citation. C'est lui qui va lui dire que lorsqu'elle parle, elle, avec ses mots à elle, elle dit des phrases qu'a dit avant elle Pascal, qu'a dit Platon, parce que c'est... Pascal, elle a cette science, elle a une science qui n'est pas une science du livre, mais elle a une science du vécu.
Tu sais, j'ai aussi pensé à autre chose dans cette même seconde. T'as peut-être raison, j'ai peut-être que très peu de chances de le retrouver, et puis après tout, il est possible qu'il soit marié ou qu'il m'aime plus, mais c'est pas une raison pour que je renonce.
Enfin, si toi-même avoues que tes chances sont pratiquement nulles, tu ne vas pas gâcher ta vie pour...
Parce que si je le retrouve, ce serait une chose tellement... Une joie tellement grande que je veux bien donner ma vie pour ça. D'ailleurs, je ne la gâcherai pas. Vivre avec l'espoir, c'est une vie qui en vaut bien d'autres.
Et tu sais ce que tu dis?
Oui, et je le pense, même si ça paraît idiot.
Alors, ça me paraît d'autant moins idiot que quelqu'un de très intelligent l'avait dit avant toi. Presque mot pour mot. Je ne pense pas que tu l'aies lu.
Qui ça, Shakespeare?
Non, non, non. Pascal.
Elle lui fait remarquer d'ailleurs à un moment que lui, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, il est obligé d'aller chercher dans les livres la vérification, alors qu'elle tient tout du concret. Et ce qui est assez important sociologiquement dans le conte d'hiver, c'est qu'on a donc ce coiffeur avec qui elle est bien sensuellement, et cet intellectuel avec qui elle est bien, mais en même temps à qui elle reproche d'être trop intello, et elle a ce jeune homme qu'elle a aimé, qui lui est cuisinier, et il y a un mot qui va définir toute l'histoire, c'est le mot « patronne ». À un moment dans le film, le coiffeur lui dit « la patronne ». Et elle ne supporte pas ce mot avec cet homme, donc elle ne supporte pas finalement la sociologie d'être avec cet homme. Alors que le mot « patronne », à la fin, elle dit à l'amant retrouvé, elle lui dit « avec toi, j'aimerais bien être la patronne ». Donc il y a ce côté sociologique amoureux chez Romère qui tient quand même une force et une part particulière.
Moi. Loïc n'est pas du tout mon genre d'homme, au physique comme au moral.
Au moral ? Qu'est-ce que tu lui reproches ? Mais rien, mais je sais pas. Il est trop intello. C'est bon pour l'amitié, mais à la longue, moi, je me sens diminuée. Je sais pas, il est trop doux.
C'est bien, les hommes doux. C'est rare.
Actuellement, pas tant que tu crois.
Et toi, avec ton caractère, je ne pense pas que tu aimes être dominée.
Eh bien, si, justement. Je n'aime pas les gens qui tombent quand je souffle dessus.
Je n'aime pas être dominée intellectuellement.
Pour revenir à l'idée de cité ou de regard, pas forcément politique, mais au moins sociologique sur ces personnages, Romère a cette faculté à dessiner ces différents milieux sociaux. Donc on voit ce repas en famille de cette femme qui n'est pas riche, qui doit travailler pour vivre, pour élever sa fille, qui travaille en tant que coiffeuse, donc c'est pas des métiers très, très, très payants. Et on voit des repas de famille comme ça, très, qu'on connaît quoi, profondément, parce que c'est dans une petite maison, c'est avec la cousine, le cousin, ou même le repas avec son amant qui est l'intellectuel. Là, c'est toute autre sociologie qui est à table, c'est-à-dire que c'est des discours à table qui sont tout autres, qui partent plus dans les références à tel auteur, et on peut citer une phrase entière, et pour autant, c'est jamais stéréotypé vraiment. C'est des personnages comme ça, avec leur voix, leurs accents, et il y a une simplicité surtout dans la façon de les présenter qui évite la coupure du spectateur, c'est-à-dire qu'on les suit ces personnages, qu'ils soient des intellectuels, qu'on se retrouve dans un repas d'intellectuels ou dans un repas de gens pas très riches, ça revient exactement au même, les discours sont présentés avec exactement le même regard. Donc on peut dire que chez Romère, il y a une facilité à englober comme ça toute une échelle sociale qui est, moi je trouve assez, assez touchante.
Il y a quelque chose d'assez proche dans Conte d'été avec les scènes de dîner qui sont présentées en parallèle, puisqu'il y en a deux. Ma vie de Poupeau au dîner avec des amis de sa petite amie, ou de celle en tout cas il aimerait bien qu'elle soit sa petite amie Léna. Et là il n'est pas du tout dans le même univers qu'eux, puisque lui fait de la musique, il est un peu dilettante. Et l'autre lui dit non, moi j'ai étudié à New York, j'ai bien voulu faire de la musique à un moment, mais j'ai arrêté, maintenant je passais aux choses sérieuses. Et on apprend plus tard, Léna lui apprend que ses amis n'ont pas du tout apprécié Gaspard. Donc il y a comme ça cette première phase sociale, alors que avec les amis de Solène, la jeune fille qui va chanter la chanson écrite par Gaspard à l'origine pour Léna, avec ses amis, il se sentira beaucoup plus à l'aise et ils parleront vraiment de musique et ce seront des marins avec un rapport maintenant simple à la vie. Et donc on a deux mini-documentaires à chaque fois sur comment est-ce qu'on est sociologiquement en dîner avec des autres et comment est-ce que la parole passe ou ne passe pas.
Alors bienvenue au club, cher Gaspard.
Tu as beaucoup d'amis?
Oui, quelques-uns, mais des vrais, et on se voit séparément.
Des garçons?
Ouais. Actuellement, comme fille, je vois que Léna.
Tu n'as pas d'amis filles?
Si, maintenant, toi.
C'est la première fois?
Ouais, pratiquement.
Tu n'as pas l'air de prendre.
Hier, je suis rentrée dans une église et j'ai prié.
Où ça?
À Nevers. Tu sais, je m'étais un peu disputée avec Maxence. Il m'avait dit un mot qui m'avait vexée. Alors je suis sortie avec Élise pour me changer les idées.
Le temps que passe Félicie dans les bus, les métros et les trains est essentiel au film, et c'est là qu'elle va retrouver son amoureux à la fin. Donc il y a quelque chose qui se joue là-dedans, du rapport à la cité, à la ville, et au temps et à l'espace, qui est très fort chez lui et qui se filme et qui se scénarise de manière très intelligente, en fait, en utilisant les transports au quotidien, comme cartographie d'une ville, mais aussi d'un état d'esprit, et après coup, d'une possibilité de retrouvailles, parce qu'elle ne prendrait pas autant les transports, elle ne l'aurait jamais retrouvé. Donc tout est assez logique finalement, et en même temps c'est très très poétique comme idée. Et je pense que parmi les cinéastes de la nouvelle vague, il y a chez Romère comme chez Eustache un regard porté sur la France dans ses types sociaux, donc dans ses paysages, dans sa quotidienneté, je vais le répéter encore, mais c'est vraiment de ça dont il est question, qui est très riche. Et je pense que si on prend tous les films de Romère les uns après les autres, on trouve à chaque fois une peinture d'une période de vie. Et là encore, Félicie, c'est une fille mère à une époque où c'était hyper répandu. Et ce qu'elle vit, c'est vraiment quelque chose de typique d'une époque aussi. Donc là encore, revenons sur les idées arrêtées sur Romère.
Et c'est vrai que le quotidien est extrêmement bien rendu, le quotidien par exemple de la prof au début de Conte de printemps. Donc quand elle rentre après ses cours, on a vu plein de profs au cinéma, mais ils sont toujours montrés avec une vague leçon en train de faire un cours à leurs élèves, un cours un peu nul. On voit bien que c'est le scénariste qui a écrit ça. Et là, c'est quoi? C'est une prof et la fatigue de cette prof qui rentre chez elle. Et on sent ça à la façon dont elle est dans le transport, à la façon dont elle pose son sac en arrivant. Et on sent cette très grande lassitude. Et pour montrer ça comme ça, il faut l'avoir vécu. Il a été prof, certes, mais il y a une recherche documentaire très très forte chez Romère. On a vraiment l'impression qu'il cherche la vérité du cliché sociologique.
Oui, je fais des recherches, c'est très important. Autrement dit, si vous voulez, pour simplifier, je préfère qu'on me compare à Balzac plutôt qu'à Marivaux. Alors que superficiellement, je suis peut-être plus proche de Marivaux. Mais il y a beaucoup de recherches de ma part, effectivement, sur la vraisemblance et sur cette réalité à la fois géographique, à la fois sociologique de la France, effectivement. Je ne veux pas faire de reproche à mes contemporains, mais enfin, je trouve que le cinéma français, c'est actuellement, est peut-être un peu loin de la vie, vit dans un monde un peu artificiel. Il est plus loin de la vie qu'il ne l'était au moment de la nouvelle vague, c'est-à-dire au début des années 60. Bon, je suis un cinéaste, mais je vis comme un piéton de Paris. Enfin, je reprends cette expression que je crois de Léon-Paul Fabre. Non, je pense qu'il faut vivre très simplement et que si on vit trop dans un monde du cinéma, dans un monde de manifestations officielles, si on ne rencontre que des confrères ou des journalistes, eh bien à ce moment-là, on risque d'être coupé du monde. Et je pense que le propre du cinéma, c'est le contraire. Le propre du cinéma, c'est s'ouvrir au monde extérieur, c'est de montrer ce qui n'est pas le cinéma.
Et on vient d'écouter la voix d'Éric Rohmer lui-même, extraite des bonus des DVD des 4 saisons. Et on retrouve tout de suite Joséphine et Charlotte qui vont évoquer quelque chose dont Rohmer lui-même vient de parler justement. C'est son rapport au roman en particulier, je pense, dans...
Non, dans les 4. J'ai été très polyvalente.
D'accord, c'est très bien.
Non, parce que effectivement, c'est vrai que les héros des films de Rohmer sont un peu difficiles à suivre. Enfin, pour ceux qui n'apprécient pas son cinéma, c'est toujours un petit peu le reproche qui revient. C'est que, bon, franchement, les intrigues... Alors effectivement, quand on regarde Félicie qui hésite entre deux hommes mais on aime un troisième, Gaspard qui ne peut se décider entre trois filles, Magali qui aimerait bien trouver un homme mais sans avoir à le chercher, et Jeanne qui aime son ami mais pas son sens inné du désordre. Donc c'est vrai que le propos sent maigre et les préoccupations assez bourgeoises finalement, c'est le reproche qui est fait à Rohmer, et pourtant c'est tout l'art du cinéaste de transformer le banal des situations et l'irritant des tergiversations de ses personnages en vrai beau cinéma. Et je pense que peut-être c'est une intelligence qui tient dans une phrase de Rohmer, qu'il dit, je crois, c'est en prélude à ses contes moraux, que vous pouvez retrouver dans la collection dans la petite bibliothèque des Cahiers du cinéma. Et il dit...
Les scénarios, oui.
Oui, les scénarios, ouais. Mes héros, un peu comme Don Quichotte, se prennent pour des personnages de roman, mais peut-être qu'il n'y a pas de roman. Et je crois qu'effectivement, les héros de Rohmer ont fait le choix de ne pas se laisser happer par la morosité de l'existence. Ils choisissent de vivre en fait au-dessus de leurs moyens. Alors quand je dis moyens, c'est évidemment leurs moyens émotionnels pour transcender chaque parole, chaque acte en une page de livre. C'est-à-dire qu'aucun héros rohmérien ne pourra se contenter de demi-mesure. Et c'est sans doute parce que la plupart a trop lu et souffre d'un incurable bovarisme. Si on prend par exemple Isabelle dans Contes d'automne, elle exerce le métier de...
libraire.
Voilà. Et elle se livre à, effectivement, un marivaudage, on en a parlé.
C'est qui écrit l'annonce.
Et quant à Félicie, alors dans Contes d'automne, parce que Contes d'hiver, on peut me dire, bah oui, mais Félicie, elle est coiffeuse. Et effectivement, elle, pendant tout le film, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle dit, mais moi, je ne suis pas une intello, je ne suis pas une intello, pour s'opposer justement à Loïc, son petit ami, qui lui est bibliothécaire et arrête pas de la saouler avec des références. N'empêche, il arrive que, en assistant à Contes d'hiver de Shakespeare, en plus au TGP, c'est pas un hasard si elle va donc au théâtre Gérard Philippe, pour ceux qui connaissent de Saint-Denis, dont les mises en scène ne sont pas réputées pour être les plus abordables du monde, c'est pas du Jérôme Savary, elle en sort complètement chamboulée. Donc si effectivement Félicie n'a pas le matériau intellectuel tel que la Loïc, il n'empêche qu'elle a un intellectualisme sensible qui lui permet d'être bouleversée par une pièce de Shakespeare. Et en plus, je sais pas, moi, un personnage comme ça qui attend le retour d'un amour perdu et le vit par procuration avec des photos, avec des souvenirs, enfin dans une cristallisation totale, ça me fait penser un peu à un personnage comme la princesse de Clèves qui attend comme ça, enfin qui a le duc de Nemours à ses côtés mais qui ne peut rien faire. Enfin,
ou Pénélope, ou ce genre de personnage complètement mythologique.
Voilà, le Lys dans la vallée, enfin il y en a plein des personnages comme ça. Félicie, elle est on ne peut plus romanesque. Alors, vouloir donner à sa vie des allures de roman, ça a forcément un prix, celui de l'indécision. Et parce que taraudée par la question de savoir si leur choix sera à la hauteur de leurs idéaux, forcément les héros de Rohmer hésitent constamment. Donc on a parlé de Gaspard tout à l'heure, donc on était qui hésite entre trois filles, et soudain, même si en fait Comte d'été ne perd jamais de sa légèreté, eh bien l'histoire estivale se teinte d'une couleur dramatique. C'est partir ou ne pas partir à Ouessant, et surtout avec qui partir. Mais si le goût du romanesque qui anime tous ces personnages donne évidemment lieu aussi aux plus belles scènes de film. Alors comme dans Comte d'été, il y a ce passage où Solène est sur le bateau de son oncle avec Gaspard. On est peut-être à 10 mètres des côtes. On est sur un petit bateau à moteur. Et soudain, Solène se met à chanter cette chanson que Gaspard a composée, dont les paroles font, je crois qu'on va l'entendre, mais je l'ai dit très vite juste avant. Je suis une fille de corsaire, on m'appelle la flibustière. Et ça continue comme ça, voilà, une chanson de une corsaire, quoi. Et à ce moment-là, c'est très drôle parce que, alors que la situation est assez ridicule, elle chante, elle met en plus toute sa voix, on est pas loin des côtes, bon, le bateau fait pas vraiment trois mâts flamboyants. Et ben quand même, on sent qu'elle y croit et que sous la petite robe d'été, quelque part, il y a un costume de pirate qui sommeille. Et je trouve ça assez joli. Que toujours, le côté romanesque prenne chez les personnages romériens le pas sur la réalité qui est souvent moins exaltante que ce qu'ils rêvent.
Merci Joséphine.
Il faut que j'aille au bout du monde, savoir si je t'aimerais. Je ne veux pas qu'on me devine, ne cède jamais. Je vais toujours en droite ligne, blanche, légère comme un cygne,
Joséphine, tu voulais nous parler également d'une phrase de Fabrice Lucchini qui a dit un jour que Romère, avec qui il a tourné plusieurs films, notamment Perceval, il a dit que Romère et Hélène et les garçons, souvenez-vous de cette sitcom culte AB Productions, c'était la même chose.
Oui. Oh, alors là, je vois les puristes derrière leur poste de radio qui hurlent, qui s'arrachent les cheveux. Mais en fait, oui, pourquoi pas.
Mais je crois qu'étant donné que le sujet de Romère, dans la plupart de ses films, on l'a dit pas dans Contes d'automne, mais on y revient un petit peu quand même, c'est l'interchangeabilité de la jeunesse. Et comment est-ce que quand on est jeune, on peut aimer un tel ou un tel, et puis passer à l'autre et à l'ami de l'ami, et comment est-ce que le désir circule. On retrouve ça de façon pensée chez Romère et de façon pas pensée du tout dans les sitcoms.
Mais c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est l'impensé qui fait des personnages, on va quand même leur donner le titre de personnages, de séries sitcom françaises comme Hélène et les garçons, qui fait que ce sont des objets, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on voit la personne qui a écrit, qui a tapé à la machine les lignes de dialogue, alors que par le langage, par un langage très littéraire et très écrit, il y a vraiment ces gens deviennent des sujets chez Romère. Et pour ça aussi, il y a un rapport au lieu, c'est-à-dire que si on met des gens dans le même lieu, en plastique, avec toujours le même comptoir de faux bar, etc., quelque part, il va y avoir quelque chose qui fonctionne pas dans ce qu'ils disent, parce que chez Romère, quand les gens parle, c'est soit, comme tu disais très bien Joséphine, faire advenir par la fiction ce qu'ils ne sont pas, comme la fille qui dit je suis une filibustière et effectivement tout à coup le petit bateau à moteur devient un trois-mâts. Si on n'a pas un lieu qui existe, on ne peut ni s'en décoller ni faire corps avec lui. C'est vraiment l'égalité des sexes, Romère, c'est que chacun sujet
désire. Les femmes désirent vraiment chez Romère.
Ouais. Et en plus, c'est souvent quand même, en tout cas dans ces contes des quatre saisons, les femmes qui mènent la danse. L'ascendant qu'elles arrivent à prendre sur Gaspard à un moment ou à un autre décide de son choix. En fait, c'est une vraie girouette, lui. Dans Contes d'automne, le pauvre Gérald se fait quand même allègrement balader, sans trop protester d'ailleurs, d'Isabelle à Magali. Dans Contes d'hiver, Félicie fait tourner en bourrique le pauvre Maxence et le pauvre Loïc pour finalement les laisser choir tous les deux. Et finalement, dans Contes de printemps, Jeanne résiste aux avances d'un Igor qui ne dirait pas non à une soirée avec elle dans une maison de campagne abandonnée.
Ça fait rêver là, on va tous partir au frais, en Normandie.
Bien, merci Joséphine et Charlotte.
Merci Martin.
On est toujours sur Radio Campus Paris, mais hors champ, c'est malheureusement fini. Vous pouvez nous écrire à ciné@radiocampusparis.org pour nous faire part de vos commentaires. Je remercie Charlotte, Joséphine, Laurence. Et cette émission a été réalisée et présentée par Martin. J'espère qu'on vous a donné envie d'acheter le DVD des 4 saisons qui est donc édité chez Opening, ou peut-être de revoir les films de Romère en salle ou en DVD. Au revoir.
Mais tu viens de dire que tu étais contente d'avoir appris beaucoup de choses avec moi.
Oui. Mais je ne serai jamais une intello. J'ai pas envie d'être intello. J'ai envie d'être moi. Je me sors des instincts d'incendiaire. J'ai l'air toute calme comme ça, mais en fait, j'ai quelquefois une violence de pensée qui m'effraie.
Vous n'allez pas vous vexer tout de même?
Si. Si, si, je voudrais que tous les hommes m'aiment. Surtout ceux que j'aime pas. Directed by the mail
and seen by the mail. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Boop, boop, bidou.